6h02, jeudi 4 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. D'abord, vous dire qu'on a un ciel partiellement nuageux ce matin, autour de 14 degrés. Et c'est une journée marquée par des averses. Il y a même un risque d'orage au cours de la matinée, donc la pluie qui va commencer un petit peu plus tard. Ce sera comme ça toute la journée. Le dégagement est prévu pour la fin de l'après-midi. Et en soirée, on prévoit également un ciel plutôt dégagé. Mais il faut aussi tenir compte du facteur vent. Des rafales de vent jusqu'à 70 km/h ce matin. Le maximum prévu, 21. L'humidex est à 27. Et ce qu'il faut noter, c'est que la nuit prochaine, là, le mercure va tomber et on prévoit un minimum d'autour de 1 degré, avec donc du gel par endroit dans la région métropolitaine. Et ce qui nous amène demain, vendredi, à du temps généralement ensoleillé, maximum prévu de 11 degrés. L'aperçu pour le week-end, c'était un long week-end, vous le savez, le congé de l'Action de grâce. Samedi, soleil nuage, 14. Dimanche, on prévoit des averses. En tout cas, ce sera couvert 20 degrés et de la pluie intermittente pour lundi et 18 degrés. Je vous dirais ce matin qu'il y a 4 ou 5 thèmes qui reviennent dans l'actualité. Évidemment, le dossier des signes religieux, le dossier du cannabis, également le libre-échange avec les impacts de l'accord qui a été signé et de façon plus générale, les retombées du résultat de l'élection de lundi. D'abord, je vais commencer par le dossier des signes religieux. La position de la CAQ n'est pas une surprise, c'est-à-dire que c'était connu et la CAQ le répétait à plusieurs reprises, donc l'interdiction des signes religieux pour tous les employés de l'État qui occupent un poste d'autorité. C'est la recommandation de Bouchard-Taylor, à l'exception de l'ajout par la CAQ des enseignants. Donc, policiers, juges, mais ajoutons les profs. Et hier, les deux représentants de la CAQ, Geneviève Guilbeault et Simon Jolin Barrette, ont dit, et là je vais citer Mme Guilbeault, un employé qui ne se soumet pas à la loi, donc un agent de la paix par exemple, eh bien, il va perdre son emploi s'il refuse, par exemple, de se soumettre aux règles et de garder le signe religieux. C'est le bout controversé. En passant, on a invité Mme Guilbeault à répondre à nos questions. Elle avait accepté en après-midi. Et puis, soudainement, paraît que l'horaire ne le permet plus, on a décliné l'invitation. Je vous dirais qu'on commence à connaître la chanson, et je ne parle pas que de la CAQ, là. Quand quelqu'un, des fois, est dans une situation un peu controversée, on nous dit oui, puis après ça, ça se défile. Mais bon, je ne ferai pas de procès d'intention ce matin. Revenons à l'essentiel. Bouchard-Taylor avait été très clair. Bouchard-Taylor disait, quand vous avez un policier, un agent de la paix, quand vous avez un juge, il faut que ça soit clair que la laïcité s'exprime par la neutralité de la personne. Et on comprend dans le cas d'un juge qui doit se prononcer sur un dossier où peut y avoir cette perception, disons peut-être de biais parce que sa religion est clairement affichée. Même chose pour un policier. Puis, on parle de religion, mais on peut aussi parler de choc culturel. Quand, par exemple, vous voyez un policier, je ne sais pas moi, qui porte un signe religieux distinctif, puis et il y a des conflits religieux dans le monde. Est-ce qu'on veut que la police, que l'individu, que ce policier exhibe sa religion? Moi, je pense que non. Et je pense que là-dessus, il faut être très clair. Et en tout cas, c'est plus brillant que ce que les libéraux avaient fait en pelletant ça dans la cour des directeurs de police. Rappelez-vous cette étudiante qui disait « Moi, je veux porter le hijab. » Au moins, ce sera une politique globale et clair. Dans le cas des enseignants, je comprends que c'est une position d'autorité, mais on s'entend que l'autorité d'un prof, c'est pas l'autorité d'un juge puis d'un policier. Est-ce que c'est bien essentiel? J'ai plus un doute. Moi, j'étais en tout cas perso, là, assez satisfait de Bouchard-Taylor. Je trouvais que c'était clair. Est-ce que ça doit mener au congédiement? D'abord, c'est sûr qu'il va y avoir un cas d'espèce. Et de mettre les règles claires à l'entrée en fonction, c'est une chose. Est-ce qu'il y a des policiers actuellement qui exhibent des signes religieux? Et là, on pense toujours à un signe musulman ou sikh, parce qu'il y a des policiers à travers le Canada qui portent ces signes, mais on peut ajouter la kippa, par exemple, confession juive, ou la croix, peut-être des policiers qui portent ça. Mais on s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est clair. L'autre question, est-ce que la loi va passer le test des tribunaux? Je ne suis pas un expert, j'en ai interviewé plusieurs. Je dirais qu'il y a un consensus assez large pour dire que prenez une cause type, mettons là, un congédiement, là, un prof qui refuse d'enlever son hijab et se fait congédier par le ministère, là, par la commission scolaire, dans les faits, décide d'aller devant les tribunaux, va défendre sa liberté religieuse. Plusieurs pensent que risque d'avoir une victoire, comme cette femme qui dit « Moi, je peux témoigner en cour avec un hijab », puis un juge qui avait dit non, puis là, finalement, elle vient de gagner. Alors, l'option qui reste, c'est, et on l'a vu hier, l'utilisation de la clause nonobstant. Pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est que nonobstant la charte, je décide au Québec de me soustraire à l'application de la charte, dans ce cas précis, et donc de maintenir en vigueur la loi controversée. Doug Ford a voulu le faire en Ontario sur les changements là, au nombre de conseillers municipaux. M. Trudeau a dit hier qu'il fallait être très, très prudent dans l'utilisation de cette clause, qu'il fallait bien y réfléchir. Mais c'est sûr que la position de la CAQ est claire. Que ça, d'abord, ça devrait être réglé depuis des années, mais le gouvernement sortant a tellement niaisé avec ça, tellement joué avec la rondelle, puis finalement se fait planter devant les tribunaux parce que c'est la notion de service à visage découvert. Pis et entre y aller de clarté, puis ce que permet la Constitution, puis ce que permet les chartes, disons que c'est tout un débat. Alors, on verra la suite des choses. Deuxième élément, puisqu'on est dans le domaine politique, Guy Ouellet revient aujourd'hui voir ses amis députés au caucus. On sait que Guy Ouellet a remporté une victoire contre l'UPAC. D'ailleurs, dans 30 jours, on est supposé lui remettre ses effets personnels, ordinateurs, téléphones qui ont été saisis. Et je le disais hier matin, le DPCP a décidé de laisser tomber, supposément, qu'on a obtenu de nouvelles informations. Je me demande bien lesquelles, moi. Je pense que tout ça est cousu de fil blanc, qu'on le sait depuis le début, que c'est une opération bâclée de l'UPAC, avec des affidavits tout croche, créatifs, diront certains, et qu'on est allé chercher des mandats qui n'auraient pas dû être accordés. Puis on est allé chercher ça, auprès d'un juge dans un district judiciaire qui n'est pas Montréal, qui n'est pas Québec, qui est Granby. Fouillez-moi pourquoi. Alors, tout ça est bien étrange. Mais là, Guy Ouellet arrive au caucus. D'après vous autres, là, les députés collègues réélus, là, comment est-ce qu'ils trouvent ça que Guy Ouellet ait donné de l'info aux adversaires politiques? Au parti québécois, à la Coalition Avenir Québec. Puis là, on dira pas des gros dossiers, c'est évidemment toute l'histoire des liens entre un haut fonctionnaire, organisateur libéral et Luigi Coretti. Puis on est dans l'histoire des fers. Donc, c'est un vieux scandale qui traînait, si vous voulez, à l'époque. Puis là, Guy Ouellet a ramené ça. Puis ça venait nuire à son parti qui avait justement nommé M. Perrineau, qui est un des acteurs de l'affaire, haut fonctionnaire avec tout ce que ça vient, tout ce qui vient avec comme avantage financier, sécurité d'emploi. Alors, c'est sûr là, que les collègues vont te le ramasser. Là. C'est déjà que quand il y a, disons, des documents qui filtrent, les élus n'aiment pas toujours ça, mais quand c'est un collègue, membre du caucus, qui alimente l'opposition, ça risque d'être assez rock'n'roll. Autre dossier, celui du cannabis. Bon, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la CAQ, là-dessus, répète son engagement de porter l'âge de 18 à 21 ans. Évidemment, ça va prendre un certain temps. Il y a donc un entre-deux. Ça veut dire que légalement, à partir du 17 octobre, des jeunes de 18 à 21 ans vont pouvoir en acheter légalement. Mais quand la loi va être changée ou le règlement, ben c'est sûr que là, l'âge légal sera de 21 ans. Et la CAQ, encore là, ne fait pas de surprise, s'appuie sur des avis, notamment de médecins, psychiatres, qui disent que il faut attendre plus longtemps pour pas qu'il y ait d'impact négatif sur la santé mentale. Puis là, je veux pas repartir le débat ce matin. Je vous dis juste, voici la position de la CAQ. Puis quelque part, l'année prochaine, ça sera 21 ans. Pour ce qui est de la consommation, on sait que, exemple, la Ville de Québec a annoncé cette semaine que ce sera interdit dans tous les lieux publics. Vous voulez fumer du pot, bien, vous allez fumer chez vous. Avec les complications qu'on peut imaginer pour notamment les locataires. Il y a déjà des propriétaires qui font inclure une clause dans le bail. Vous me direz, ouais, mais actuellement, les gens consomment où? Ben, les gens consomment un peu discrètement dans leur appart, parfois sur le balcon. Certains me disaient dans la ruelle. C'est sûr que l'hiver, c'est plus compliqué. Alors là, la Ville de Montréal va faire connaître la semaine prochaine sa politique. On ne peut pas dire qu'ils sont tellement proactifs. Alors, vous avez les arrondissements qui sont contrôlés par les partis d'opposition, en fait, le parti d'opposition principalement, qui disent, nous autres, non. Alors, c'est un peu mêlé, ce qui fait qu'on se retrouve, par exemple, avec des règlements qui vont varier d'une rue à l'autre à Montréal. Donc, ce sera interdit de fumer du cannabis dans un parc du plateau, par exemple, de Ville-Mont-Royal. Mais peut-être que sur le plateau, ça va être permis. Mais à Saint-Léonard puis Montréal-Nord, on ne pourra pas. Alors, il n'y a pas de réglementation à l'échelle de la ville. Ce sera du cas par cas, du rue par rue. Puis ça, c'est vrai aussi à l'extérieur. Un auditeur qui m'appelait hier, tu as des banlieues qui, évidemment, se touchent, se collent. Puis là, d'un côté, tu pourras, puis l'autre bord, tu ne pourras pas. Mais la CAQ a dit que ce serait interdit aussi dans les lieux publics. Alors voilà pour le dossier du cannabis. Peut-être vous dire qu'il y a Desjardins aussi qui, après avoir dit « on touche pas à ça », nous autres, l'industrie du cannabis, ils s'aperçoivent qu'il y a pas mal de fric à faire là-dedans. Et ils se disent prêts maintenant à intervenir. 6h14, marque les points chauds. Merci beaucoup. Un petit mot sur l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Raymond Bachand sera avec nous plus tard ce matin. Mais il y a l'homme d'affaires, Peter Simons, qui lui est pas content. Parce qu'il trouve encore que l'annonce, en fait les modalités prévues dans cette nouvelle entente, représente encore une fois une iniquité pour les détaillants canadiens. Alors, rappelons les faits. Le seuil minimal d'achat sans frais de douane va passer de 20 $ à 150 $ canadiens et les taxes de vente ne seront plus imposées lors d'un achat en bas de 40 $. Auparavant, c'était 20 $. En pratique, vous achetez en ligne aux États-Unis. Puis, si votre achat a une valeur de 150 $ et moins, il n'y aura pas de frais de douane. Et si votre achat est sous les 40 $ vous n'aurez pas à payer les taxes. Là, Peter Simons dit, puis on peut le comprendre, là. Puis là, dites-moi pas que ce sont de nouvelles taxes. La taxe, elle existe. On l'applique différemment. Alors, pourquoi moi, j'irais dans un magasin, je vais m'acheter un bidule à 25 $ puis je vais payer les taxes. Si j'achète en ligne, en bas de 40, je ne paye pas. Appelons ça un certain déséquilibre. Et si c'est le cas, bien, on devrait avoir la même politique partout. Dites-moi qu'en bas de 40 $ on ne charge pas les taxes au Québec ou au Canada. Mais pourquoi seulement sur l'achat en ligne? Alors, il y a l'intention, évidemment, de se battre. Et il trouve que ça vient créer comme une espèce, en fait, pas créer, ça maintient un déséquilibre quand même important. Dans les autres nouvelles aussi ce matin, il y a l'histoire, j'ai vu ça hier sur Facebook, puis on s'est renseigné, là, de ce commerçant, un restaurateur dans le fond du plateau Mont-Royal, le resto qui s'appelle Kiber Pass, et qui se fait ordonner par l'arrondissement du plateau de démolir la façade. J'irai voir la photo là, dans les journaux aussi ce matin, mais c'est sur Facebook. C'est, en fait, la façade, là, c'est depuis 2009. Et là, on est dans la bureaucratie par-dessus les oreilles. OK, le propriétaire a fait des travaux sans permis. Là, on commence en 2009. Là, je ne donnerai pas toutes les dates. Mais là, on lui dit que ça prend un permis. Là, après ça, parce que c'est une façade de bois, c'est original, il a fait faire ça par un architecte. Puis là, vous avez le comité consultatif d'urbanisme qui recommande de refuser le projet en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration. On est sur la rue du Lutte, là. OK? propriétaire, il dit oui, c'est original, mais c'est plus beau qu'avant. Y a-tu quelqu'un qui s'est plaint? C'est-tu dangereux? Mais il y en a qui trouvent ça laid. Puis il y en a qui n'aiment pas ça, puis ils veulent pas y donner le permis. Lui, il continue. Puis là, vous avez des amendes. Fait que t'as un propriétaire qui respecte pas la démarche au début, puis là, ça se braque avec le conseil d'arrondissement, puis là, vous avez un comité consultatif. Et Dieu sait, pas que sur le plateau, mais dans quelques arrondissements de Montréal, pour avoir parlé à des propriétaires, à des architectes, il y en a là qui sont spécialisés pour faire suer au nom là, de l'harmonisation visuelle. Tu sais, le goût, là, puis sincèrement, je regarde ça, là, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est laid? Perso, ça me dérange pas. Je fais pas « wow », tu sais, c'est pas là, puis je fais pas « erc ». Tu sais, le gars a fait une façade en bois. Ça dérange personne. Puis comme il dit, voulez-vous que je ramène un petit crépi, là, puis c'est ça que vous voulez que je fasse? Alors là, ça a l'air que l'arrondissement peut démolir. Je vous dis, là, ça fait 9 ans que ça dure, pardon. Puis on va envoyer la facture à monsieur. L'autre chose également ce matin, c'est dans la presse, l'histoire de ce dragon, Martin-Luc Archambault, que vous voyez à l'émission très connue, qui a créé un logiciel qui s'appelle Wajam. Puis c'est un logiciel qui se retrouve dans les ordinateurs. Et là, il y a eu une enquête de... c'est un organisme fédéral qui s'appelle le Commissariat à la protection de la vie privée, qui a regardé ça puis qui a dit que c'était un... Alors qu'on nous présente ça comme un moteur de recherche sociale à succès, c'est une façon de garrocher de la pub que tu veux pas, OK? Donc, c'est fausse représentation, un. Deux, ça va chercher des infos privées. Trois, ça prétend que t'as une espèce d'outil de recherche connecté sur les réseaux sociaux. Or, c'était vrai puis ça ne l'est plus. Autrement dit, c'est un logiciel pour le moins controversé. Monsieur Archambault dit que la compagnie a été vendue depuis l'enquête menée. Pas rien à voir là-dedans, que ça se retrouve à Hong Kong. Là, tu essaies de savoir à qui ça appartient, c'est encore là assez flou. Donc, est-ce qu'il a vraiment vendu, pas vendu? Il répond pas trop. Puis en plus, autre volet, il a passé beaucoup de dépenses perso sur ce qu'on appelle des dépenses d'entreprise. Donc, il a fait payer par la compagnie ses voyages dans le monde, train de vie assez luxueux, mais payé par l'entreprise. Puis là, vous avez un ancien partenaire avec qui est en conflit qui raconte ça. Alors, disons que le personnage se fait un peu accrocher ce matin. Puis il n'a pas voulu vraiment donner de version concernant ce qui s'est passé avec sa compagnie. Autre chose, on a beaucoup parlé des abus commis par des prêtres pédophiles. Hier, on a appris que des religieuses de la Congrégation des Sœurs de la Charité auraient agressé des enfants qui séjournaient à l'orphelinat du Mondioville à Beauport. C'est une requête qui a été déposée pour des événements qui se sont passés entre 1925 et 1996. Et, sauf erreur, là, c'est la première fois que des religieuses sont visées. On a eu un paquet de prêtres pédophiles, là. Donc, c'est le requérant, il s'appelle Jean Simard, c'est un ancien pensionnaire, il a 56 ans, qui affirme avoir été le souffre-douleur d'un éducateur pendant 2 ans. Il a reçu des coups de ceinture, donc la violence physique, puis il y a eu des cas d'abus sexuels qui ont été rapportés. Une jeune fille, par exemple, qui a été agressée sexuellement par une religieuse, travaillait à la buanderie. Et on va parler avec un des avocats qui est visé là-dessus. Et ça arrive au moment, puis là, ça, c'est une partie de l'histoire du Québec qui refait surface, parce que regardez la période de temps, 1925 à 1996. Ce matin, je reçois Isabelle et Mireille Grenier, qui sont deux jumelles. Et le titre du livre, c'est « Les jumelles martyrs ». À 2 ans, elles ont été adoptées, ils se sont retrouvées dans une famille. Puis là, quand tu dis « négligé par l'État », violence physique, violence sexuelle. Tu sais, puis c'est toujours pareil. À l'époque, on ne parlait pas trop de ces affaires-là. Il fallait garder ça un peu sous le tapis. Alors, ça fait le tour de nos manchettes. On s'arrête là-dessus. Il est 6h23. Bon, il y a cette histoire-là de... Je t'écoute depuis ce matin me parler de ce tapis sur la métropolitaine.
40 ouest, métropolitaine, secteur 5-3. espèce de membrane, un tapis en caoutchouc ou en plastique. Les camionneurs me parlent.